la musique.
Carabanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Vive.
Assez semble-t-il, on va les vérifier quand même.
Et alors, bon, on est assez, voilà. Vous avez dit quoi, bordel? Vous avez dit quoi? Personne n'écoute, voilà.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Bagnolet par exemple, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes d'expression curieuses. Et il va être question de ça aujourd'hui, puisqu'on va parler de formes théâtrales et de mouvements sociaux. Mais je laisse Patricia Favreau nous présenter nos invités. Bonjour.
Bonjour. Alors, nous accueillons aujourd'hui Abdel Mehanesh. Bonjour.
Bonjour.
Et Nicolas Flèche.
Bonjour.
Alors, ils vont nous parler, entre autres, de leur spectacle « Cortège de tête, virgule, une conférence imaginaire contre le réel ». Alors, on va commencer tranquillement. Pouvez-vous dire à nos auditeurs où et quand vous vous êtes rencontrés ?
On s'est rencontrés la première fois en manif à Paris pendant le travail. On s'est rencontrés... Nico, il avait toujours un débardeur blanc. Du coup, c'était facile de le repérer en manif. On s'est rencontrés à Nuit Debout, à Radio Debout. Et... on s'est rencontré après un mec qu'on a rencontré aussi, qui s'était fait arrêter. Et du coup, on a discuté ensemble et c'est là-bas où on s'est fait la première rencontre, quoi.
D'accord. Mais vous avez rencontré d'autres personnes également.
Oui. On s'est tous rencontrés dans le cortège de tête, en fait, par le cortège de tête. Ce qui a cristallisé un petit peu les rencontres, c'est l'arrestation d'un de nous, Reda. Mm. Et c'est par cette arrestation-là qu'il y a une espèce de petite coagulation qui s'est faite autour de son cas et que des gens qui n'auraient jamais été amenés à se rencontrer dans la vie, on va dire, réelle, normale, se sont finalement rencontrés. Donc le propos
Voilà. Et tu dis tous, mais qui sont ces autres personnes? Est-ce que tu peux les présenter? Est-ce que vous pouvez les présenter?
Alors il y a Lise Marie Barré, il y a Reda Malek, il y a Karim, j'ai oublié son famille d'ailleurs.
Benzini.
Ouais, Benzidani. Pardon. Il y a Nicolas Flèche, pas Fench, hein, Nicolas Flèche, et à moi, Abdelhamianesh.
D'accord. Voilà. Et donc c'est de cette rencontre pendant les manifs de 2016 contre la loi travail qu'est née cette envie de spectacle cortège de tête.
En fait, moi j'écrivais déjà des textes bizarres que je lançais sur Paris Lutte Info, sur Facebook même parfois. De témoignages de mes journées, voilà, de manifs sauvages, etc. Et je cherchais le moyen d'être plus complet que ça et de rendre compte aussi de l'aventure collective qui était en train de se fabriquer et de cet endroit très très spécial et nouveau et singulier, le cortège de tête, qui était en train de se constituer en fait. Donc du coup, ça me tarabustait quand même pas mal, cette histoire-là. Je cherchais, je tournais autour de ces... Voilà. Et quand, à un moment donné, ces rencontres se sont faites, je pense que ça a tourné de façon inconsciente dans ma tête et qu'à un moment donné, c'est apparu, c'est remonté à la surface et je me suis dit, c'est à travers ces rencontres-là qui n'auraient pas dû avoir lieu, en fait. Voilà. C'est les gens qui viennent d'horizons tellement différents. Que tout à coup je me suis dit, si on raconte juste ces rencontres-là en mettant ces prénoms-là les uns avec les autres, on tient déjà une histoire qui raconte ce que c'est que cet endroit, qui permet des choses, des possibles. Donc du coup, très rapidement, j'ai fait la proposition.
On a commencé par des enregistrements.
D'accord, ouais. Alors finalement, qui a écrit ce texte? C'est tous
C'est nous.
Chacun a écrit sa partition.
Voilà.
Moi je me suis démerdé pour essayer de fabriquer une espèce de canevas narratif pour qu'il y ait une narration quand même et après j'ai fait écrire les parties, chacun a écrit ses parties, puis après on a fait du montage, du travail de montage, voilà.
D'accord. Et Abdel, tu disais il y a eu des enregistrements?
Ouais, il y avait des enregistrements au début quand on a commencé. Bon, après ça remonte quand même un peu longtemps, du coup je m'en rendais pas compte, tu vois, mais on a commencé. Je m'en rends plus compte, mais on a commencé avec des enregistrements. Je me rappelle, on était sur les quêtes Jaurès avec Lise-Marie et Nicolas. Et ils me posaient des questions. Et c'était vague au début. On ne savait même pas ce que ça allait donner, sur quel projet ça allait aller. On se laissait déjà notre colère, et en même temps notre rencontre à faire quelque chose, à créer quelque chose. C'est ça qui nous a amené à faire ça maintenant, quand j'ai tête.
Donc finalement, d'après ce que tu dis, il y a comme une mise en consigne, en fait, puisque vous posiez des questions pour écrire le texte.
C'est pas plus des questions, c'est pas... Enfin, si tu veux dire un truc, Nico,
mais... Ouais, en fait, moi je savais que je voulais de toute façon rendre compte de ce qui se passait. Donc j'avais pris un rendez-vous, en fait, avec un théâtre dans lequel je travaille de temps en temps, qui s'appelle la Télé du Plateau, dans le 19e arrondissement, en disant à Mathieu Malgrange, qui s'occupe de la programmation du lieu... De toute façon, je ferai quelque chose, mais je sais pas quoi. Est-ce que tu as le courage de dire banco? Mathieu dit oui, je te donne le 15 septembre. Et du coup, voilà, j'avais ces rencontres le 15 septembre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au départ, effectivement, on a fait des longues interviews d'Abdel parce que moi, je ne savais pas encore quelle tournure ça allait prendre. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, il faut que les corps soient en présence. parce que les corps racontent déjà quelque chose en eux-mêmes. Et donc, du coup, j'ai proposé à Abdel, plutôt que de prendre ses sons, de faire le travail de l'effort de l'écriture, que chacun fasse ce travail-là et se réapproprie son histoire et notre histoire à travers l'effort de l'écriture, qui est un véritable effort, hein, parce que c'est pas... Voilà, je...
On, là, c'était une première, tous auteurs. Ouais, voilà. Moi, c'était un peu une première, moi, tu vois. Je suis arrivé, je me dis, ouais, on fait ça, puis d'un coup, ouais, bah, on a le théâtre, on a ça à faire. Ah ouais, ouais. Du coup, on a avancé. La première fois, on avait joué combien de temps à l'atelier du plateau?
Alors, la première représentation, on n'avait pas fini de travailler ni d'écrire.
On n'avait pas fini de travailler, on a joué 3 heures, je crois.
On a joué 3 heures et on coupait au fur et à mesure de la représentation, qui a été peut-être sans doute autre chose qu'une représentation, peut-être un moment ou un.
Ouais,
c'est assez incroyable.
Ouais. Donc, vous comptez là déjà combien de représentations de ce texte ?
Alors, on a joué dans la Drôme 3 fois, Gaîté Lyrique 1 fois, ça fait 4. On a joué, enfin, ils ont joué, moi j'étais pas là, la dernière fois, l'échangeur, 5. Ils ont joué à l'atelier du plateau. On a joué à l'atelier du plateau. Ça fait, on a joué combien de fois ? On a joué 1 fois à l'atelier du plateau.
Ouais, 2 fois à l'échangeur, 1 fois à la nef.
Ouais, à la nef aussi.
À la générale. On a joué une dizaine de fois, je pense.
D'accord, d'accord. Ah, et donc, pour voir un peu ce que raconte, on va donner un aperçu aux auditeurs. Abdel, si tu veux bien faire une petite lecture.
Ok. Je m'appelle Abdallamé Anesh. J'ai 18 ans maintenant. J'ai 5 frères et sœurs, 2 parents. J'ai redoublé mon bac à cause de ces manifs. J'étais en terminale scientifique dans le 93. Les manifs contre la loi Travail et son monde ont clairement été mon entrée dans la politique, même si ma première action politique a été celle des manifs pro-palestiniennes. Je me considère comme un anarchiste et pourtant je suis musulman. Ou plutôt, je ne sais pas encore ce que je suis, je cherche. Je suis pour le fait que chacun soit autonome. Le mot anarchie, je l'ai entendu la première fois en Algérie, il y a quelques années. Les gens ont une expression qui dit c'est l'anarchie pour dire c'est le bordel. Pendant les manifs, tout le monde me parlait d'anarchie, ça m'intriguait. Je me suis renseigné sur le net, à vrai dire, je n'ai pas vraiment compris. Sauf que l'anarchie, c'est plus compliqué que ce qu'on le pense en général. Il ne s'agit pas là d'un simple mot, mais d'une pensée très structurée. Mais alors la question se retourne maintenant. Car si je ne suis pas anarchiste, qui suis-je? Je cherche. Je veux que le peuple dirige l'État et non pas que l'État dirige le peuple. Je veux vivre, comme on dit en arabe, « habn aish ». Je n'ai pas peur de grand-chose, ayant vécu beaucoup d'histoires surréalistes dans ma vie. J'ai habité à Stein, au Clos Saint-Lazare, une des cités les plus dangereuses de France. J'ai vu plusieurs personnes mourir ou mortes sous mes yeux, ce qui m'a fait ouvrir les yeux dès ma plus jeune enfance, sur les difficultés de la vie. J'ai mes 2 parents et ma grande sœur malade. Je m'occupais encore beaucoup d'eux et de mes frères et sœurs pendant le mouvement. Lorsque j'allais en manif plutôt, ça me permet de décrocher du monde où je vis quotidiennement. Aujourd'hui, j'ai la chance de connaître ces personnes qui travaillent ce récit avec moi. J'ai un rêve à moi, qui n'est pas de passer chez Soch, mais que les personnes du 93 intègrent une autre vie que celle qu'elles vivent. On se plaint de la précarité à Paris, mais on oublie celle des banlieues. Vous aurez dû remarquer que j'ai toujours été joyeux, et vous verrez que ça le restera toujours, puisque j'ai compris que tous nos problèmes ne sont que poussière devant ceux qui ont pris la Bastille, à savoir les casseurs. Noyé dans les douleurs, j'ai fini ma... Je vais pas tout vous raconter parce que sinon après c'est...
Voilà, il faut que t'en laisses un petit peu pour ceux qui voudraient venir.
Ouais. Voilà, je me suis plongé dedans. J'ai l'impression que j'étais en...
On l'a entendu, c'était très beau. Oui. Oui,
c'était juste pour resituer l'extrait que vient de lire Abdel. C'est que pour bien rendre compte de ces croisements qui se sont faits, de ces rencontres qui se sont faites, de ces amitiés, de ces complicités qui sont nées, j'avais proposé qu'on parte de nos autoportraits, en fait, pour que on ensuite arriver jusqu'à nos rencontres, mais partir de qui on est et au plus possible d'aller dans l'intime. Voilà.
Ouais. Et justement, on voit que les personnes qui se rencontrent viennent d'horizons complètement différents. Ah. Et est-ce que vous... Donc, on voit, par exemple, on a Karim ou Lise Marie qui sont vraiment... qui sont vraiment qui travaillent à la radio, donc qui connaissent ce monde-là et qui veulent prendre des sons et être sur le vif comme toi de ce qui se passe. Oui. Et qui veulent prendre des traces.
Oui. tout à fait. C'est aussi pour ça que j'avais demandé à Lise-Marie et Karim de faire partie un petit peu du bazar. C'est parce que j'avais vu... Alors, ils travaillaient tous les deux à l'époque à Radio Debout. Je connaissais un tout petit peu Lise-Marie, mais vraiment très peu. Et on a vraiment fait connaissance sur la place. Et c'est elle qui m'a présenté Karim, du coup. Et donc, je savais, je les voyais dans le cortège... avec des micros, etc. Et donc, je savais en leur proposant aussi qu'on aurait cette richesse-là de son. Voilà.
Et alors, c'est une question pour vous deux, mais aussi peut-être Abdel. Comment vous avez vécu ce processus d'écriture, je veux dire, la mise à l'écrit de faits réels et personnels? Comment vous l'avez ressenti?
Déjà, c'était... c'est assez difficile déjà de savoir où on en est, nous, déjà, dans notre chemin de vie. De à quoi ça sert ce qu'on fait, qu'est-ce que ça va donner du futur, parce que déjà, entre l'époque où on a commencé à écrire et maintenant, déjà, j'ai l'impression que j'ai vécu des milliers d'années. Mais voilà, quoi, c'était un plaisir, c'était un effort aussi, et ça m'a permis aussi d'être, moi en tout cas, plus responsable et plus mature, tu vois. J'ai acquis une grande maturité avec Nico, Lise-Marie. Et Lapin.
Voilà. Lapin ?
Lapin, c'est Karim. C'est un délire.
D'accord.
On se reconnaîtra tout seul.
Ok, très bien. Alors, je voudrais revenir là sur le titre du spectacle, parce que quand même, ce titre, c'est tout un programme. Déjà, le spectacle, c'est un spectacle, une lecture performée. Comment vous le présentez ?
On sait pas. Moi, je sais pas moi-même exactement.
Hein, c'est à 4 fois 100 mètres.
Ça prend la forme d'une lecture dans la mesure où on lit les textes, qu'on est à table, comme des conférenciers finalement.
Mais attention, vous êtes habillé d'une certaine manière au départ.
Ah, alors si on peut spoiler, alors on va spoiler.
On arrive
en masqué, comme en manif. Bloc. En black bloc pour certains, ou au moins masqué pour d'autres. Comme on était en manif, quoi, plus ou moins. Au départ, c'était une ruse. La première représentation, il y en a qui n'étaient jamais montés sur des scènes. On ne savait pas comment ça allait réagir. Tout le monde commençait à avoir un putain de trac, quand même. Hein. Ouais. Tu peux l'avouer, ça. Tu peux en faire l'aveu, quand même.
C'était chaud, quand même.
Et donc, du coup, moi, je m'étais dit, peut-être que si on se masque, ça permettrait déjà de faire le plongeon. Donc voilà, j'avais proposé à chacun de se masquer, qu'on se masque tous et qu'on commence nos autoportraits, parce que c'est quand même pas évident. Hein, on va loin, on se raconte, on raconte des choses comme Abdel vient de faire, donc quand même de l'ordre, quand même bien de l'intime. Et j'avais dit, si vraiment vous le sentez, ce qui serait très très beau, c'est de retirer les masques, en fait, pendant qu'on donne à entendre qui on est. Et donc de coupler cette espèce de striptease de visage avec le striptease de son mystère à soi, de son âme, quoi. Mmh. Voilà.
Oui.
Et puis ça s'est fait, sauf Reda qui a gardé son habit de Black Bloc jusqu'à la fin.
Ouais. Mais maintenant... À chaque fois qu'on joue une présentation, ça change, en fait. À chaque fois, le truc, il change. Des fois, on passe à travers le public. Des fois, on passe directement sur scène. Des fois, on passe complètement, on fait un tour pour arriver. Du coup, à chaque fois, t'es... voilà, du coup, c'est à chaque fois un truc à chaque fois chelou, de plus en plus chelou.
D'ailleurs, moi, quand je suis allée voir Cortège de tête à la Générale, c'était... je pensais que le jeune homme... quand j'ai découvert que le jeune homme, c'était pas un jeune homme, que c'était Nathalie Quintane, ça m'a fait... Ouais. J'ai été très surprise, en fait.
Ouais. Voilà. Ah, t'as vu cette représentation?
Oui, voilà.
D'accord, c'est parce que Abdel, à l'époque, il était à Bordeaux, là?
Non, j'étais à la ZAD.
Ah, c'était... Bon, alors Abdel,
ah d'accord, voilà.
J'étais à la ZAD, du coup, voilà.
Il était à la ZAD, il avait peut-être même... Ah, mais oui, mais bien sûr, on était très tristes. T'allais pas très bien à l'époque.
Ouais, j'allais pas très bien. Ouais.
Et du coup, on a hésité à le faire parce qu'on l'avait encore jamais fait... On l'avait toujours fait tous ensemble et ça avait un sens comme ça. Et j'avais du mal à me projeter dans le fait que le texte puisse avoir sa propre existence avec des acteurs, des doublures. Et j'étais très embêté. J'ai demandé à un ami du Cortège de tête qui a suivi tout ce travail, qui est un ami plasticien très très cher, qui avait d'ailleurs donner une des pièces, une de ces pièces.
L'atelier du plateau.
Voilà, l'atelier du plateau pour la première représentation. Et il m'a dit non, mais j'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée. Et il nous a envoyé Nathalie Quintane, qui s'est masquée du début à la fin du spectacle et qui a remplacé Abdel avec, avec tout son, son talent.
Avec tout son talent, mais pas avec la même carrure, je pense.
D'accord.
Ouais, mais t'as eu une grande poétesse quand même.
Ouais, pour bah, dire je la remercie, ouais. Je la remercie. Et...
Bon.
Même si je ne l'ai jamais rencontrée, Nathalie Quintane.
Donc je reprends là sur le titre Cortège de tête. Bon, nos auditeurs savent ce que c'est que le cortège de tête, mais pour vous en fait, pouvez-vous nous en donner votre vision, c'est-à-dire ce que, par ma question j'entends, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie pour vous que d'être dans le cortège de tête?
Bah c'est une petite dédicace à Nico, c'est le fait déjà de ne pas être avec les gros ballons de la CGT et leurs saucisses déjà. Voilà quoi, je suis pas dans le cortège où tout le monde crie ouais on veut une autre politique, moi je suis dans les personnes qui agissent on va dire. Un peu qui savent pour casser le capitalisme, pour casser les symboles de... Bon maintenant on va dire j'ai 20 ans mais je suis devenu vieux. Hein. Je suis moins solide qu'avant, bah. Je suis moins fou surtout, mais je les soutiens quand même. Et je soutiendrai toujours ce cortège et pas un autre. Quoi.
Bah, je pense que chacun aura, sa,
oui.
aura sa vision de ce qu'est le cortège de tête. Après, il y a quand même des grandes lignes, j'imagine, sur lesquelles les gens qui y étaient se retrouvaient. Je pense que ce qui a été très, très rapidement une des bases, on va dire, politiques qui a constitué, c'est le fait que des tendances diverses, à un moment donné, décident petit à petit, mais assez rapidement finalement, je trouve, de se dire que toutes les stratégies se valent et qu'on va accepter toutes les modalités de lutte à l'intérieur de ce cortège. C'est-à-dire que ceux qui participeraient éventuellement pas à des actions violentes les soutiendraient. Voilà, ou les, au moins les condamnerait pas. Et moi, je pense que ça a constitué sa force. Ensuite, on peut dire que c'est un cortège où il n'y a pas de service d'ordre et que quand même, ça change à la fois et sa tronche et son esprit. Que c'est un endroit où on trouvait énormément de bienveillance avec la naissance des street medics, avec... voilà, ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans sa singularité ou dans...
Moi, j'ai entendu une expression une fois, et ça me fait souvent penser à ça, mais ça vous paraît bizarre peut-être. Mais nous, dans le 93, il y avait quelqu'un une fois qui m'a dit, un grand de la cité, et qui m'a dit « on peut pas gratter avec des gratteurs ». Et du coup, en gros, ça veut dire qu'on pouvait rien faire dans le 9-3. Alors que si on va en dehors, j'ai trouvé, tu sais, quand j'ai fait cortège de tête, j'ai trouvé le fait est que, tu sais, la réponse de cette phrase. Je peux gratter, mais avec des personnes qui s'en foutent, en fait. Et au final, moi, ça m'a envie de gratter la vie et non pas gratter le sens physique. Quoi, du coup, c'est ça que, je sais pas, ça me fait penser à ça, moi, quand je pense à cortège de tête un peu.
Ah, tu veux dire que tu as fait des rencontres que tu n'aurais pas fait en restant au Clos Saint-Lazare.
Exactement.
Ah, bah oui, mais c'est. Ça, je pense que c'est ce qu'on raconte, ce qu'on n'a pas trop raté dans l'écriture du texte. C'est-à-dire que c'est un endroit de rencontre, moi, je pense.
Oui.
C'est-à-dire que pas de service d'ordre, du coup, une espèce de porosité, de mélange, de joie aussi, quand même.
Si tu crois n'importe quoi, c'est ça qui est bien, en fait.
Et effectivement, des rencontres inattendues, quoi.
Oui. Moi, oui, je vous entends bien, j'entends bien. Et je me disais, mais le cortège de tête, c'est ce qui est très à l'avant. Quand on est dans le cortège de tête, on est aussi en première ligne.
En vérité, première ligne de quoi déjà?
Eh oui, mais...
Première ligne de la manif. La manif, si seulement au moins l'État il prendra en compte les manifs, il prendra un truc en compte. Là, on pourrait dire qu'on sera en première ligne face à... Là, on a aucun... En fait, ça me fait penser à une parole de Fianso. Tu fais la guerre qui fait la guerre à des mecs que tu verras jamais. En fait, on va en manif et voilà, on est en première ligne. Mais face à qui? Face à des pions, en fait, des pions, des policiers qui sont juste allez, va là-bas. Non, moi, je veux être face au roi. Je veux être face à la reine ou au roi. Quoi. Je vais faire tomber la grosse tête. Je vais pas te faire tomber des petits pions. C'est pas mes. Voilà, je suis en première ligne, eux aussi sont en première ligne.
Oui, bah, peut-être aussi, pour répondre à Patricia, c'est que, effectivement, ce qu'on n'a pas dit, parce que ça nous paraît hyper évident, c'est que le cortège de tête, il s'est constitué aussi par le fait qu'à un moment donné, les gens qui étaient d'habitude derrière, autour sans doute de la CNT, des autonomes, etc., tout à coup se dit, ben non, il n'y a aucune raison qu'on soit toujours derrière, on monte devant. Et effectivement, ça s'est pas fait sans heurts. Il y a eu des disputes, des luttes violentes, même hyper violentes, avec notamment l'énergie de la CGT. Et puis, à un moment donné, en fait, ça a été quasiment acté qu'à chaque fois, les gens se retrouvaient devant. Et après, bah, ça, c'est voilà. Et effectivement, il y a ça, c'est que c'est monté devant les syndicats, ce qui était pas très courant finalement. Hein. On était quand même plutôt à la traîne d'habitude. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est effectivement dans ta question, il y a ça. Et puis après, devant le cortège de tête, il y a encore le Black Bloc qui, lui. Et il y avait, on peut dire, c'est pas. Parce que beaucoup de gens essaient de séparer ce truc-là, c'était pas. Il y a des gens qui se masquent, qui se démasquent, qui reviennent dans le cortège de tête, qui montent au Black Bloc, qui redescendent. Enfin, tout ça, c'est très organique. C'est beaucoup plus organique que ce qu'ont pu en dire les médias. Ou
même, il y a des gens qui sont là aussi dans le Black Bloc juste pour faire masse, hein. Il y a des gens qui viennent et qui sont masqués, et tout ça pour soutenir. Juste en soutien à des personnes qu'on voit, dès qu'il y a le moindre pétard, ils sursautent et ils courent en arrière. C'est juste des gens qui sont là et qui ont envie de soutenir ce truc, je pense. Et que, ouais, je sais pas, c'est une grosse expression. C'est, je sais pas, c'est comme un banc de poisson face au, tu vois, quand il y a les requins qui viennent nous manger, esprit de force. Tu vois, c'est... Ouais.
D'accord. Ouais.
Moi qui étais, hein, je peux confirmer ça, que il y avait une grande partie des gens qui étaient en soutien au Black Bloc, et qui les Black Blocs venaient se réfugier parmi les gens lambda, quoi, les vieux, il y avait même des vieux et tout ça, quoi. Ouais. Et il y a un aspect aussi que vous n'avez pas évoqué, moi qui me paraît évident, c'est l'aspect joyeux.
On va en parler justement, mais un peu de patience.
J'ai pris de l'avance aussi. Un cortège de tête. Hein.
Un cortège de tête. Cortège de tête oblige. Alors, juste là, Abdel, tu veux continuer une lecture
Bah, je vais vous faire un petit truc du 28 avril. Ça, c'est une petite dédicace à ma sœur, peut-être, qui m'écoute. Parce que j'en parlais tout à l'heure. Alors, le 28 avril, il y a une attaque de flics en cortège de tête. Moi et mon groupe d'action, on se prépare. Pas le temps de comprendre que je reçois un flashball. Je boite, je vomis sur une vieille et son chien. Les médics veulent m'arrêter. J'ai pas le temps, j'ai perdu du terrain. Je boite, faut que j'avance vers mon groupe. Ils font notre signe de regroupement. Le soir, je vais à un concert de Nuit Debout. Il y a une émeute, c'est plein de gaz. On s'enfuit en tapant sur les flics. Avec une équipe de 12 mecs, on avance. On casse les banques, on brûle les autolibres. À Stalingrad, la BAC surgit. Un BAC s'avance sur moi, avec sa matraque télescopique. Un gars sort par derrière et lui met un coup de micro-ondes. Un autre flic me braque à un flashball à 3 mètres. Je tombe et je le prends, je me tourne et je le prends. Bing, en pleine fesse. Putain, j'ai mal. Je saigne à peine 30 cm au-dessus du premier flashball que j'ai pris l'après-midi. Je tombe, les médics appellent les pompiers. Je reste 15 jours à l'hosto, de veine éclatée.
Merci, ouais. J'ai une autre question. Nicolas, tu insistais sur le fait que tous les 5, parce que vous êtes 5, Vous étiez liés en dépit de milieux socioculturels et de préoccupations différentes, par ailleurs, d'accord. Le fait d'insister sur ce point, est-ce que c'est une façon de mettre en valeur une vision fondamentale de l'acte politique?
Ah, clairement. Très clairement. Alors... Déjà, ça rejoint l'aspect de la joie, parce que c'est une vraie joie de sortir de soi, de sortir de son entre-soi, de sortir des sentiers battus. Je trouve qu'Abdel l'a très bien raconté, mais c'est vrai pour Abdel qui vient du Clos Saint-Lazare, et c'est vrai qu'il vit, pour moi, qui vient plutôt de la bourgeoisie. Donc oui, c'est bien sûr que c'est politique. C'est même pour moi la base de ce qui devrait faire la politique, en fait, de partir de l'intime, de soi, et de construire quelque chose dont on ne sait même pas quoi, finalement, en fait. Mais c'est à partir de ces rencontres-là que quelque chose est possible, et c'est pas en appelant un possible qu'on va construire des constructions qu'on ne connaît pas. Moi, je pense que c'est plutôt en partant de choses comme ça, organiques, corporelles même, et charnelles, carnées, que on peut après imaginer
c'est ça qui nous fera imaginer même des choses et voilà. Donc oui, c'est pour moi c'est un geste, c'est clairement un geste politique ce qu'on a fait. Et après pas que, sinon ce serait hyper triste, et c'est pas que un geste littéraire parce que ce serait hyper triste aussi. C'est une espèce de voilà, enfin si on l'a pas trop raté, c'est un texte politique, mais on pourrait dire c'est un poème aussi.
Ouais. Donc Christophe parlait de joie, mais et dans le dossier de presse du spectacle, tu parles de fête. C'est en ce sens alors que les manifs peuvent être une fête. Voilà.
Abdel, tu veux parler de l'aspect de la joie qu'on a éprouvé dans le cortège de tête ou que t'as éprouvé ? Bah vas-y.
Ouais. Mais je sais même pas comment l'exprimer. C'était on était mort de rire. Entre le fait que quand on ramassait des cailloux et que l'autre il le cassait par terre et que ça tapait mon orteil, que je me casse l'orteil, que je rigole, pleurais quand on se casse un orteil. Je sais pas. C'est en fait quand on était en manif, déjà il y avait des gens que au fur et à mesure qu'on se rencontrait, juste un sourire, juste parce que l'autre il a fait ça ou l'autre il a sauvé quelqu'un, on se regardait à travers les masques. Je sais pas, c'est. Ouais, j'ai rencontré plein de gens que même maintenant c'est des très grands amis à moi. Je sais pas. Cortège de tête.
Pour moi, il y a plusieurs. Il y a la joie, je pense qu'il y a la joie de la destruction. Quand même,
qui est soulagement.
Voir une immense vitrine je sais pas, de banques s'effondrer avec des hurlements, des cris de libération, ça c'est quand même une véritable joie.
Non, ça c'est plus de la rage envers les banques que de la joie. Mais...
Ouais, mais c'est une joie de l'avoir s'effondrer. C'est la joie de prendre la rue déjà, de dire on occupe une rue, on peut peut-être même défoncer un barrage de flics par moment. Ça c'est une vraie joie, même si on sait que c'est éphémère, temporaire, etc. Il y a la joie de dire on réoccupe l'espace et on le tient un petit peu. Il y a la joie des rencontres. Ça c'est presque indicible quoi. Enfin c'est ce qu'on a essayé de faire en fait finalement, plus qu'un texte qui le raconterait, qui le dirait de manière didactique. C'est un peu ce qu'on a tenté de faire, c'est de le faire sentir. Voilà. On espère que ce texte il fait sentir la joie des rencontres en fait, de ce que ça a pu procurer comme presque une espèce de...
Ouais, surtout quand on voit que les Bolloré, là, et les Autolibes, ça marche plus.
Alors, c'est une vraie joie. Alors pourquoi cette conférence est-elle imaginaire, alors, du domaine de la... imaginaire dans le sens du domaine de la fiction finalement...
Parce qu'on voit ça que dans les films, hein. La plupart des gens, je vais les appeler les moutons qui regardent des films là. La plupart des gens, je pense qu'ils ne s'en doutent pas que ça existe en vrai, des trucs comme ça.
Parce que conférence imaginaire contre le réel. Alors là, vas-y Nicolas, explique-nous.
Alors, d'abord, en fait, quand on a fait la première représentation, le mouvement il n'était pas terminé. Donc voilà, il y avait clairement sans doute des gens dans la salle qu'on n'avait pas tellement envie de voir. Et comme il y avait des gens qui avaient des soucis juridiques, dans nous cinq, il fallait qu'on mette ça dans le champ de la fiction. Voilà.
Mm-hmm. Donc c'est pratique comme...
Voilà, c'était pour placer le texte dans le champ de la fiction. Et ensuite, contre le réel... C'était une manière de parce que ce texte-là, il était aussi clairement pour qu'on se réapproprie notre histoire qui nous était volée chaque soir par les médias, continuellement en fait, qui fabriquaient un réel et qui, au sens de, pour les gens qui sont à l'écoute de ces médias-là, c'est le réel. Et donc nous, avec le peu de moyens qu'on avait, la centaine de personnes qui venaient nous écouter le soir, on se disait, c'était David et Goliath, quoi, c'est pot de fer, pot de terre. C'était de dire, nous, on va de l'intérieur vous dire c'est quoi notre réel à nous. Donc, contre le réel, c'est. La formule n'est pas complète, si tu veux, c'est contre le réel de BFM, oui, de oui, LCI, oui. De Antenne 2, du Nouvel Obs et de Libé, quoi.
Oui. Et de BFM TV aussi.
Ouais.
Ah ouais. Oui. Alors, là, c'est une question. Bon, dommage, Karim n'est pas là, mais j'aurais pu lui poser la question aussi. Mais Nicolas, je te pose, c'est pas la première fois que tu travailles sur la lutte sociale en tant qu'écrivain, que conteur. Et puis tu continues d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a amené originellement à avoir un intérêt comme ça? Le fait d'écrire, on peut écrire sur d'autres choses. Toi, tu as choisi un angle particulier.
C'est la première fois quand même que je fais écrire des gens,
ouais.
Que je fais co-écrire un texte. Ça m'était jamais arrivé. Moi, j'écris tout seul, hein, dans mon coin d'habitude. Et ensuite, j'avais jamais écrit, je pense pas, sur un mouvement social. J'ai écrit, j'ai toujours considéré que mes écrits étaient politiques au sens où on l'a dit tout à l'heure. Hein. J'ai beaucoup écrit, notamment sur l'univers du travail, sur mes expériences en intérim, des choses comme ça. Donc pour moi, ça, c'est de l'écrit politique, qui ont toujours mélangé l'intime avec le travail, la sueur, le réel, voilà. Mais j'avais, je pense, comme ça, là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne pense pas que j'avais déjà écrit sur un mouvement social en tant que tel. Ouais.
Mais ça ne germait pas, quand même, l'idée, non?
En fait, c'est venu d'une urgence. Hein, je me suis retrouvé dans le cortège de tête. Je pigeais petit à petit ce qui était en train de naître d'un peu particulier. Et j'avais voilà, le véritable sentiment que c'était quand même quelque chose d'incroyable. Et donc, c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, j'ai écrit, je ne pouvais pas faire autrement que de témoigner de ça, j'en avais vraiment besoin. Mmh. Donc c'est plus né d'un besoin, d'une urgence de dire à ceux qui pourraient lire éventuellement les choses, en fait c'est ça qui se passe, hein, c'est vraiment ça qui se passe, et c'est dingue, venez quoi. Voilà. Et après de le faire de façon plus complète avec d'autres.
Tu veux bien nous lire un petit extrait de ta partie?
Alors, j'hésite entre, pour contraster avec l'autoportrait d'Abdel, de lire le début du mien, ou alors un truc un peu plus loin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais envie, toi?
Ben, on peut faire les deux, c'est-à-dire tu peux commencer par ton autoportrait, et puis après...
C'est juste pour contraster, pour montrer, hein, tu vois, pour faire sentir que voilà, il y a eu le qu'on vient bien d'endroits très différents. Quoi.
D'accord, c'est bien.
Souvent, je me suis perdu longtemps. Je m'appelle Nicolas. Je n'ai pas d'animal ni de couleur préférée sauf le phénix. Le fait que mon arrière-grand-mère versait boulevard Malesherbes son thé depuis une théière en argent vers une tarse en porcelaine fait aussi de moi ce merdier. En déséquilibre dans mon enchevêtrement de paradoxes, je tâche d'exécuter des figures qui voudraient rivaliser avec les turbulences qui me bombardent. J'ai haï l'école. Aussi profond que je peux fouiller le brouillard de mon enfance, toutes mes forces, j'ai haï l'école. J'ai reçu une éducation catholique, je suis athée, c'est d'abord le dégoût qui m'a éloigné du religieux. Maintenant que je pèse 82 kilos, que j'ai 42 ans, que je consulte un kiné, je pense que les religions, par un tour de passe-passe, sont parvenues à faire croire que le sacré est religieux. Heureusement que non. Le sacré passé au mixeur du religieux devient plus mort qu'un gadget. Pas plus de sacré dans un calice que dans mon slip. Bon, et après, voilà. Donc, ça, c'est le début de l'autoportrait. Tu veux que je lise un peu plus loin?
Allez, allons-y.
Donc moi, là, ce que je prends, c'est beaucoup plus loin même. C'est la journée du 10 juin. Et c'est... J'ai aperçu la silhouette d'Abdel dans une petite manif sauvage où on était monté sur les voies ferrées, d'ailleurs, pour bloquer les trains à Bercy. Et le lendemain, jour d'arrestation de Reda, Lise Marie m'appelle et on se retrouve à Place de la République parce qu'elle me dit qu'elle a assisté à une arrestation violente d'un jeune, Reda en l'occurrence, et qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour ce jeune-là. Donc j'arrive à République. Voilà. Prise dans la nuit, parmi le groupe qui zone à Répu près de Radio Debout, entre les tentes, les chiens, les bouts rouges des sticks et des clopes, les sacs, je reconnais la silhouette du géant de la manif des cheminots. Gargantua, Place de la République. Musclée, massive, elle s'extrait des onards. Flegme loubar old school. Casquette, jogging, basket. À travers la nuit, je perçois ses oscillations. Je discerne son sourire gavrochard. Il me serre la main. Il embrasse Lise Marie. Nous nous tenons à l'exact endroit où je me tenais le jour où Lise Marie nous présenta Hakim et moi. Je l'avais alors appelé pour qu'il me file le contact de lycéens qui avaient tenté d'occuper leur établissement. Bien plus qu'un tuyau, je rencontrerai le poseur de lapins le plus rigoureux que jamais je ne rencontrerai, à qui l'on continue pourtant de donner tour de bras des rancards. En discutant avec Hakim, je me rendrai compte que la perception de la violence n'est plus la même. Le foin médiatique autour de la bagnole de keuf cramée par rapport à la violence spectaculaire des années 70, 80 et même 90. La violence d'État sur ses opposants est pourtant plus plombante, pernicieuse, mortifère. Elle agit aussi en amont même des rassemblements par la surveillance, le fichage, l'intimidation, la criminalisation. Aujourd'hui, plus une manif sans que les flics filment chaque manifestant, des interdictions de manifester distribuées les matins même, la répression judiciaire est bien plus importante. On n'imaginerait pas aujourd'hui renverser des bagnoles de matons en plein jour démasquées sans l'intervention de la BRI qu'on a vu débouler ce printemps-là pour bien moins que ça.
Merci beaucoup. Donc, après avoir écouté vos deux lectures, on se rend bien compte qu'il y a à chaque fois un aller-retour entre la narration intime et puis la narration des faits. Donc ça, c'est très important pour ce texte-là. Non, ce texte-là, c'est essentiel, quoi.
Je pense que sinon, il aurait été très chiant, en fait. Enfin, il n'aurait pas eu de grand intérêt. C'est-à-dire, on aurait... le témoignage brut, type les articles qu'il y avait dans Paris Lutte Info, par exemple, voilà. Là, on voulait aller plus loin. On voulait aussi faire sentir... D'abord, aller au-delà des cercles militants. Et pour ça, il faut raconter autre chose. Il faut aussi raconter autre chose. Donc là, c'était les rencontres. Et l'intime, quoi, pour montrer aussi qu'il y a des chairs et des êtres sous les cagoules. Hein. C'était aussi ça le propos de du poème.
Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux artistiques, en fait, les enjeux littéraires, quand on se préoccupe de sujets comme ça, de sujets sociaux? Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il y a des choses? On se dit, il ne faut pas faire ça, ça, il faudrait le faire, ça, c'est mieux. Ça, c'est un peu ce que tu disais. Si on avait fait de cette manière, ça aurait été très chiant, ça aurait ressemblé à Paris Lutte Info. Est-ce qu'il y a d'autres travers?
Attention, je ne dis pas que Paris Lutte Info, c'est chiant.
Non, pas du tout. Mais c'est pas forcément très artistique.
Pas toujours. Mais c'est pas ce qu'on, en plus qu'on leur demande. Hein, mais. Je pense que l'enjeu littéraire que j'ai, enfin, où tout de suite je me suis dit là il y a quelque chose, et quand je parle de poésie je pèse mes mots, hein, quand même, c'est-à-dire que je le pense réellement, c'est que c'est un récit choral et que l'enjeu pour moi en tant qu'auteur c'était de garder les parlures de chacun, parce que c'est ce qu'incarnerait littérairement chaque personne. Voilà. C'est-à-dire qu'en l'absence des corps et des visages et des accents il y a une façon de carner ça qui est que chacun ait sa parlure, son style. Donc pour moi c'était un enjeu littéraire fort, intéressant en tout cas. Après il y avait de la narration, c'est-à-dire qu'il y a une progression dans le récit. Ça, je pense que j'ai essayé un tant soit peu de qu'on ait envie de tourner les pages, quoi, tu vois, voilà. Je sais plus, qu'est-ce que tu... Ouais.
Oui, tout à fait. Et alors, finalement, l'aventure du spectacle Cortège de tête continue, puisque vous allez jouer là. Voilà. Mais elle continue aussi avec un autre. Elle a continué aussi avec un autre spectacle.
Oui.
Qui s'appelle
Se défendre.
Oui. Alors se défendre avec certains membres du groupe.
Oui. Alors c'était là, c'est parce que on avait des sons. Lise Marie et Karim avaient énormément de sons. Moi, il y a une danseuse que j'aime beaucoup le travail. Qui s'appelle Laetitia Angot. Et j'avais envie de poursuivre le travail entamé avec Cortège de tête sous une autre forme. Et donc, à partir des sons, je me suis dit que si on y allait par le biais de la danse, on allait peut-être encore toucher encore un autre public. et puis que la danse, finalement, c'est-à-dire l'engagement du corps sur un plateau, il était quand même pas mal pour parler du cortège de tête, ou l'engagement du corps quand même, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais ce qui caractérise le cortège de tête aussi, c'est le retour du corps et de la chair aux politiques. Et que la danse, évidemment, là, c'était imparable, quoi, pour parler de ça. Donc effectivement, on a monté une caisse de danse. Là, pour le moment, c'est Lise Marie qui a fait un montage son.
On va en écouter un.
Ah ben voilà.
Voilà. Hein, Christophe. Voilà, lacrymo dans les yeux, je vois plus rien, c'est la merde.
Ma culture théorique et politique m'a laissé en héritage l'idée fondatrice selon laquelle les rapports de pouvoir ne peuvent jamais toujours complètement se rabattre in situ sur des face-à-face déjà collectifs, mais touchent à des expériences vécues de la domination dans l'intimité d'une chambre à coucher, au détour d'une bouche de métro, derrière la tranquillité apparente d'une réunion de famille. En d'autres termes, pour certains, pour certaines, la question de la défense ne cesse pas quand s'arrête le moment de la mobilisation politique, la plus balisée, mais relève d'une expérience vécue en continu, d'une phénoménologie de la violence. Cette approche féministe saisit dans la trame de ces rapports de pouvoir ce qui est traditionnellement pensé comme un « en deçà » ou un « en dehors du politique ». Ainsi, en opérant ce dernier déplacement. J'entends travailler non pas à l'échelle des sujets politiques constitués, mais bien à celle de la politisation des subjectivités. Dans le quotidien, dans l'intimité d'affect, de rage enfermée en nous-mêmes, dans la solitude d'expériences vécues de la violence face à laquelle on pratique continuellement une autodéfense qui n'en a pas le label. Au jour le jour, que fait la violence à nos vies, à nos corps et à nos muscles? Et eux, à leur tour, que peuvent-ils à la fois faire et ne pas faire dans et par la violence? 2015, 2016, 2017, 2018.
C'est pour nous séparer, quoi.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 à Paris et dans toute la France et le monde entier sur Internet, sur radio-libertaire.net. Alors, c'est l'émission Les Oreilles Libres. Nous accueillons aujourd'hui Abdel Mehanesh et Nicolas Flèche qui nous parlent du cortège de tête, et du spectacle cortège de tête. Alors, on vient d'écouter un extrait du spectacle Se défendre, qui est un autre spectacle que celui de ce cortège de tête. Alors, Nicolas, tu as parlé du choix de la danse pour ce spectacle. On peut parler aussi du titre Se défendre et du livre de Elsa Dorlin, dont on a entendu des extraits là.
Bah, elle en parlerait mieux que moi quand même.
Non, mais comment vous l'avez rencontré,
ouais. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on discutait avec Lise-Marie de ce projet depuis quelques soirs, tranquillement, à bâton rompu. Et donc on revenait aussi sur ce qu'avait été le cortège de tête, en fait. Et en discutant, on comprenait des choses avec le recul. Notamment le fait que sans doute le petit dénominateur commun du cortège de tête, ça avait été le réengagement physique des gens et le retour des corps aux politiques. Et à ce moment-là, c'est au moment où sort le bouquin d'Elsa Dorlin, Se défendre, une philosophie de la violence, qu'on lit, parce que... Et on tombe complètement en raide de ce livre, en fait. On se dit, il arrive à point, c'est... Enfin, voilà, il y a des fois des bouquins comme ça qui ratent pas leur rendez-vous. Et on cherchait un titre, et c'est toujours un peu compliqué de chercher des titres, donc on n'était jamais satisfait. Et puis, en fait, à un moment donné, Lise-Marie, elle dit, bah, se défendre. Et ouais, en fait, c'était... Donc voilà, du coup, bah après, on a contacté Elsa pour lui demander, et voilà. Voilà pourquoi se défendre. C'était un emprunt à son titre, un hommage, et en même temps, sans doute aussi, une façon de dire qu'il y avait différentes façons de fouiller les questions. La philosophie, Elsa Dorlin, et puis nous, l'art vivant, et en l'occurrence la danse. Mm-hmm. Et le son, pardon.
Voilà.
Évidemment.
Et puis votre expérience d'activiste, en fait.
Oui. Alors ça a été... Quand j'ai fait la proposition à Laetitia Angot, la danseuse, elle savait pas elle a tout de suite dit oui. Après, elle savait pas par quel bout le prendre non plus. C'est une danseuse de l'improvisation, beaucoup. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle a quelque chose que finalement tous les deux artistes devraient avoir, mais c'est finalement pas le cas. C'est-à-dire une espèce d'ultra rigueur à être toujours dans l'instant. Voilà. Et ce qui est pas très, très évident, mais elle l'a. Et donc elle a commencé par faire des très longues interviews de Lise-Marie et de moi sur le cortège de tête, à nous écouter, se remplir de tout ça. Parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'elle n'en avait pas fait partie. Et ça, je trouvais que c'est... Voilà. Il y avait la rencontre entre Lise Marie qui en venait avec ses sons et une danseuse qui est très intéressée par le politique, très très intéressée par la politique, puisque elle a, elle, un endroit qui s'appelle la permanence chorégraphique Porte de la Chapelle, où elle fait danser des migrants, les gens en bas des immeubles, etc. Donc elle a sa façon. Mmh. Et donc voilà, elle s'est remplie de ce qu'on lui racontait, elle s'est chargée de ça et elle a fait une proposition de danse sur les sons de Lise Marie.
D'accord. Donc finalement, ces deux spectacles en fait se complètent et se répondent.
Moi, je trouve. En tout cas, voilà, se défendre est venu à la suite en se disant bon, on a aussi du son, on n'a pas fini d'explorer cette question-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait faire autrement? Voilà. Et donc on s'est lancé là-dedans.
Alors, en voyant les deux, vos deux travaux là. Moi, j'ai et à la lumière du dernier, de se défendre, je me suis dit ouais, d'accord, il y a se défendre, mais il y a quelque chose qui se développe, c'est une réflexion sur la notion de résistance. C'est ce que j'ai pensé. Alors peut-être que je fais fausse route, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la résistance. D'ailleurs, peut-être Abdel a évoqué un peu tout à l'heure d'être là, de faire face à quelque chose et de le dépasser. Donc je sais, est-ce que je me trompe ou...
T'as quelque chose à dire là-dessus, Abdel, toi?
Ouais, je sais pas, moi, tu vois, moi, je suis musulman. Moi, je crois en un Dieu unique, par exemple. Et c'était, moi, d'aller en manif, c'était comme... de croire en quelque chose aussi, tu vois, de s'accrocher à un truc, de dire qu'un jour, ça va changer, un jour, il y aura quelque chose pour nous, un jour, parce qu'on sentait, moi, dans mon quartier, on se sentait complètement délaissé, quoi, les magasins qui ferment, les magasins nanani, il n'y a plus rien, tout est cher, pour s'acheter limite, si tu vas pas chercher les invendus que normalement on fait une récup avec, tu vois. Et du coup, moi, c'était un truc où, c'était comme spirituel, je m'accrochais à un truc, même si je me disais qu'il n'y avait rien à la clé, même si je me disais que j'étais là, déterminé. Et je suis là, toujours.
Et par rapport au mot résistance, toi, ça t'évoque quoi
Déjà, je pense que moi, déjà, dans les quartiers, dans les banlieues, je pense que juste d'habiter en banlieue, c'est une grosse résistance, déjà. Parce que c'est une résistance à voir... c'est pas le cas de le dire, mais voir la merde, quoi. Voir la merde au quotidien. Et
de se faire harceler par les flics sans arrêt.
Harceler par les flics. Tu peux pas faire 30 mètres sans que tu croises trois voyous de flics sur une des trois. T'es obligé d'en avoir une qui te contrôle. Ouais, on te connaît, qui connaissent ton prénom. Tu vas à l'école le matin. Moi, j'allais à l'école le matin. J'habitais devant le commissariat de Drancy. J'allais à l'école, je mettais le sac. S'il y avait une voiture qui sortait, si c'était la BAC ou pas, ils me regardaient. Bon, monsieur Méanège, vous allez où? Je t'emmerde, moi. Tu me laisses aller faire ce que je veux. Je vais à l'école, je sais pas. Voilà, c'était une oppression permanente de voir tout le temps des gens qui se cachent, qui sont obligés de se cacher pour faire leurs choses, tu vois. Voilà, bah, ça, c'est déjà une grosse résistance. Du coup, d'aller en manif, ça m'a permis de dire que c'était limite pour moi la lutte armée. J'allais casser une banque, pour moi, c'est comme si je tirais sur tous les flics. Voilà.
Résistance, je ne sais pas si le mot il est tellement chargé que c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas autodéfense, ouais. Mmh. Mais c'est une forme de résistance, oui. Après on est toujours un peu embêté parce que...
Bah oui, bien sûr, mais...
Mais je me souviens du soir où t'es venu voir Nathalie, enfin où le spectacle où Nathalie avait remplacé... À un moment donné, il y a eu la discussion après le spectacle et elle s'est penchée vers moi. Elle a dit « Mais pourquoi on a tant de mal avec ce mot ? Parce que finalement, c'est bien ça qu'on fait. »
Mais ouais, moi, bon. Je suis bien d'accord.
Donc, c'est bon.
Voilà. Ok. Pourquoi on n'écouterait pas une autre partie de se défendre ? Voilà.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et nous parlons aujourd'hui de cortège de tête. À vous les amis.
Oui, alors on continue là et hors antenne, Abdel parlait, faisait une petite, une comparaison entre les manifs de 2016 et puis les gilets jaunes là. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous évoquais?
Je voulais évoquer déjà que c'est ce que je disais, c'était que c'est la même violence un peu quand même. Après moi c'est les gilets jaunes et je sais pas, j'y vais pas comme en 2016 quoi, je suis pas présent parce que j'ai d'autres trucs à gérer. Mais de ce que je vois, de ce qu'on voit et de des gens qui reviennent on va dire du front, c'est chaud hein. C'est vraiment chaud, des gens qui se prennent des flashballs à tout va, un gros bordel, une répression qui se mange, qui est hardcore. De toute façon, moi je regarde impuissant à m'occuper des squats, à m'occuper des gens à la rue. C'est déjà une grosse responsabilité. Parce que je peux pas risquer de perdre un membre par cette répression qui est violente. Quoi.
Oui. Et alors, selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis les manifs de 2016 avec le cortège de tête et la configuration des manifs des gilets jaunes, en fait? Est-ce qu'il y a un aspect qui a changé dans la révolte, dans la lutte?
Ouais. J'en ai fait quelques-uns, là, des rendez-vous parisiens les samedis, là. Ce qui change, c'est que tu montes une barricade avec des gens qui sont pas gauchistes, quoi. Donc, ce qui change, c'est que ça n'a rien à voir, quoi. C'est tu montes une barricade avec une mamie, avec une maman, avec des gens qui n'ont pas spécialement de culture politique au sens où on l'entend en tant qu'activiste. Même si en fait c'est complètement politique ce qui est en train de se faire, hein, parce qu'ils prennent la rue. Mais ce qui change, c'est que il n'y a pas que telle ou telle mouvance autonome ou anarch, etc. C'est beaucoup plus large que ça. Après, la violence qui s'est abattue sur le cortège de tête en 2016, c'est le même type de violence qu'on a là, mais beaucoup plus massive parce que le mouvement est plus massif. Et donc du coup c'est impressionnant le nombre de blessés et la répression juridique qui est monstrueuse. Mais je pense que tout ça c'est une montée en puissance depuis la COP21, première marche, seconde marche, la loi travail, les mouvements aussi sur les violences dans les banlieues avec l'affaire Théo, ça remonte, les élections, au moment des élections il y a eu aussi pas mal de brutalité. Et là, avec les gilets jaunes, on arrive à un truc où on... qui peut dire où ça va aller, j'en sais rien, Et ce qui est différent physiquement aussi, c'est qu'il n'y a pas... En 2016, il y avait des sauvages, donc qui allaient hors cortège officiel, mais là, c'est 15 sauvages dans Paris. Enfin, c'est une sorte d'émeute, en fait, qui... des quartiers entiers où tu vas quelque part et il se passe quelque chose. Donc c'est plus diffus, c'est plus massif aussi, il y a plus et c'est pas constitué de la même façon, quoi. Mais c'est quand même moi je trouve ça incroyable, quoi, ce qui est en train de se passer.
Bien, alors j'ai vu que en ce moment, Nicolas, tu travaillais sur un projet où on parle de Artaud, de Ginsberg et également des gilets jaunes.
Oui.
C'est ça? Non. Tu peux nous en parler? Alors, est-ce qu'il y a aussi des membres de l'équipe de cortège de tête, en fait?
Pas dans ce projet-là, mm-hmm. qui est en fait un projet de Régis Sébette, le directeur du théâtre de l'Échangeur. C'est un spectacle, c'est la troisième forme d'un spectacle qu'il a commencé à travailler il y a deux ou trois ans, à partir de la thèse de Christina De Simone, une chercheuse en théâtre. Ça a pris plusieurs formes. Moi, je rejoins la troisième forme, là, donc c'est une reprise de rôle. Et c'est sur les avant-gardes littéraires d'après-guerre, l'importance d'Artaud. Sa résonance jusque dans la Beat Generation, les lettristes, les situs, voilà. C'est un spectacle qui est très drôle quand même. Et il y a les gilets jaunes parce que moi il m'a fait rejoindre ce projet, je pense aussi parce que
pour ce que je pouvais y amener comme propos, parce qu'en fait c'est une écriture, il écrit lui, mais à partir de, d'improvisations qu'on a faites, de choses, de matières qu'on amène. Moi, la matière que j'ai amenée, c'est évidemment bah, celle-ci, quoi. Donc les luttes politiques contemporaines, voilà. Et donc j'étais en train de pondre justement un texte sur l'acte 4 des Gilets jaunes, voilà. Il m'a fait lire plein de choses que j'avais écrites, et il m'a dit, bah voilà, on va aller au plus frais. Et donc il y a des bribes de ce texte-là en fin de spectacle. Mais on va dire le texte complet avec des musiciens le 23 janvier dans un squat à Ivry. On soutient la coordination anti-répression. Voilà.
D'accord. Moi je voulais... je voulais parler de ça. Tu as beaucoup parlé de l'intime dans l'émission, entre autres, hein. Et donc c'est très important. Mais l'idée, je trouve qu'il y a une idée dans le spectacle Cortège de tête, une idée du collectif. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire comment vous avez voulu représenter le collectif ? C'est-à-dire que les individualités sont très représentées, mais le collectif est aussi représenté d'une manière... on sent que le collectif est super important et c'est des personnes qui ne sont pas tout le temps ensemble. Et ça, c'est...
Bah, l'union fait la force un peu, j'ai envie de le dire. Moi, je n'aurais pas réussi à faire Cortège de tête tout seul et je n'aurais pas réussi à casser des banques si je n'aurais pas été avec un groupe. Quoi. On ne peut rien faire. Moi, je pense que c'est en se soutenant et en se serrant les mains qu'on va réussir. On ne peut pas ouvrir un exemple, on peut pas héberger 600, 700 personnes en squat tout seul, quoi. On est obligé d'avoir une équipe de personnes structurées et après, au fur et à mesure, on devient amis et des fois ennemis. Voilà.
J'ai envie que tu nous... Alors d'abord, j'aimerais bien que tu répondes à Patricia, mais par rapport à nous cinq, déjà. Ouais. Et après, j'aimerais bien que tu nous racontes ce que tu fais à Bordeaux, parce que tu tournes autour depuis tout à l'heure, comme ça tu vas le dire, parce que c'est intéressant. Mais tu vois, l'idée, comment on a raconté et qu'est-ce que ça continue ? Est-ce qu'on continue à raconter quelque chose, tous les cinq, même en dehors de la pièce ou, tu vois, qu'est-ce que...
Bah pour moi, déjà, on raconte notre rencontre. Je sais pas, pour moi, c'est quelque chose de grand, quoi. Après, c'est peut-être parce que je leur accorde trop d'importance, mais je sais pas, c'est quelque chose, c'est pas rien. On s'est rencontrés, maintenant ce que ça donne, ce que je suis devenu, ce qu'ils sont devenus. Je sais pas, c'est peut-être grâce à moi qu'il a envoyé le premier projectile sur la police. C'est grâce à lui que j'ai joué à la Gaîté Lyrique. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu...
Mais le fait qu'on se voit pas tout le temps, mais qu'on continue d'exister en tant que groupe. T'habites à Bordeaux, j'habite à Paris, on se voit dans la Drôme. Toi,
mais entre toi et moi, c'est spirituel, c'est pas pareil.
Non. Bon, et sinon, parce que t'habites Bordeaux maintenant, et tu parles de squat, de migrants, etc. Donc,
Ce que je fais à Bordeaux, j'ai plusieurs choses à Bordeaux. La première, c'est qu'on héberge des gens dans la rue, et la plupart, principalement, des migrants. On a plusieurs squats. Là, le dernier qu'on a ouvert, il s'appelle l'Ascenseur. Aussi suivre le Squid à Bordeaux. Et on est à 415 personnes hébergées en ce moment, même voire plus. Et voilà. On a besoin de soutien. On a plusieurs associations qui nous soutiennent, notamment au Val Citoyen, j'en parle parce que ça va se monter à Paris aussi. C'est un collectif où ils font du rugby. Et pour les personnes qui n'ont pas de papier ou qui sont à la rue, où c'est ouvert à tout le monde en fait. Mais il n'y a pas de. C'est un peu comme McDo, mais vraiment. Venez comme vous êtes. Et on fait du rugby, on s'entraîne, médecin, tout ça, tralala, on s'occupe de tout, quoi. Et voilà.
Parce que t'es rugbyman aussi.
Ah, voilà. Dire,
ouais, quand même.
Je suis agent polyvalent.
Vous le voyez pas, mais on peut s'en douter le studio.
Il y a quand même un corps, là, à côté. Hein.
Ouais. Ouais, je fais du rugby depuis avec le citoyen. Mais j'ai commencé jeune, le rugby. C'est ça. J'ai commencé jeune, et après j'ai arrêté. Après, chez les manifs, c'était un sport aussi. Hein.
Ouais. Parce que quand même, ce qui s'est passé, c'est que tu arrives du Clos Saint-Lazare, tu te pointes au Cortège de tête, tu fais des rencontres.
J'étais au Clos, après je suis parti à Drancy, Cortège de tête.
Politiquement.
Ouais.
tu passes par la ZAD, puis une autre ZAD du côté de Tarbes, et tu te retrouves à Bordeaux avec des squats pour les migrants. Mmh. Voilà, quand même. Hein. Mmh. Et ça se passe entre tes 17 et tes 20 ans, quoi.
Mmh. Ouais. Et toi, Nicolas, sur le collectif, qu'est-ce que tu peux... Tu as quelque chose à...
Par rapport vraiment au projet du cortège de tête, là, bah ouais, c'est un groupe qui existe en dehors maintenant même du fait de faire le spectacle ou pas. On a par exemple été les jouer dans la Drôme au mois d'octobre, je crois.
C'était mortel, c'était trop bien.
Voilà, c'est des temps qu'on partage ensemble, en dehors du jeu, à manger, à discuter, à revenir sur... prendre des nouvelles des uns et des autres. Karim, entre-temps, il est parti s'installer dans le Lot, dans un collectif. Voilà. Mais effectivement, on se revoit régulièrement avec plaisir, et à la fois pour poursuivre l'aventure. On a notamment beaucoup retravaillé ces temps-ci parce que le texte devait être édité. Puis bon, finalement, il le sera pas, en tout cas pas.
Ah
dans,
oui, c'était
dans...
une question aussi. Oui. Alors, ah, pardon, il devait. Excuse-moi. Non, mais c'est pas. C'était. Je veux dire, je voulais parler de ça. Ce texte, alors, on peut l'avoir ou...
Mais on devait. Mm. Parce qu'on est le combien là?
On est le 11. Bah,
il devait sortir hier. Ouais. Il devait sortir hier.
Normalement.
Donc on avait travaillé dessus à la demande de gens qui sont venus nous chercher. Nous, on l'avait pas envoyé, ce texte, hein, aux maisons d'édition. Voilà, ça nous était pas encore. Mais je sais pas. Ça s'est mal passé dans le travail. Je pense qu'on est tombé sur des gens pas très sérieux, en fait, au final, et que.
Très sérieux du tout.
Voilà, le texte qui devait être additionné, qui devait être écrit par des historiennes, nous a paru complètement
merdique,
plus que léger. Et on nous demandait de réécrire, en fait, les phrases. C'est-à-dire que
c'est un classique, non, de l'édition.
Oui,
souvent,
mais
non,
là, oui.
Pas... Ils ont désacralisé
notre texte. Non, mais là, c'était carrément revoir les parlures de chacun. Donc, en fait, à l'encontre même du projet, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent pas lire ce type d'objet, en fait, finalement. Donc, voilà. Si on l'édite quelque part, on tâchera de trouver des gens plus sérieux.
D'accord.
Le moment, le seul moyen de l'entendre,
c'est de venir.
Donc, une forme courte, évidemment, parce que c'est un montage court. Hein. Le texte est... Je ne sais pas ce que je t'avais envoyé à toi, mais le texte est plus long que ce qu'on en dit, nous. Ouais. Nous, on fait un petit montage un peu serré pour la scène.
Mmh. Ouais. Très bien. Peut-être... si vous nous donniez les dates de tout ce dont on a parlé, de cortège de tête, de se défendre, de ton dernier spectacle que tu es en train de jouer maintenant. Vous pouvez nous donner ça à nos auditeurs, là, maintenant ?
Abdel, tu t'occupes de donner les dates de cortège de tête ? Ah bah si tu veux.
Super.
Il a écrit une petite chanson là.
Non mais c'était pour après normalement ça. C'était pour le...
Comme tu...
Alors donnons les dates et après tu chanteras la petite chanson. Ça marche ?
Non mais c'était pour... Bon, c'est pas grave, je vais chanter la petite chanson, c'est plus rapide.
Ok, super.
Bon, cortège de tête. Ok, ça c'est un petit truc, une petite dédicace, je viens de l'écrire tout de suite là sur le truc.
Super.
C'était pour après normalement, mais on va le faire après avec l'image. Divac dans les rues de Paname, cortège de tête à l'ancienne sur scène, pas de coups de surin, que des coups de foudre. Atelier du plateau, c'était grave chaud. Théâtre de la Neuve, c'était de la marionnette. Gaieté lyrique, c'était folklorique. À l'échangeur, j'étais pas là. À la Drôme, c'était ravioles et copines. Alors venez le samedi 12 et 19 à l'échangeur Bagnolet à 16h pour vivre la loi travail en avant.
Waouh. Super.
Voilà, c'est Abdel qui a annoncé les dates de cortège de tête à l'échangeur. Il y a aussi le spectacle de Régis Sébette, spectacle envoûtement profération 2 bis. Ça a comme la première hier. C'est jusqu'au 19 avec relâche mardi-mercredi. Voilà. Il y a en même temps, j'ai invité le collectif La Meute, qui est un collectif de photographes du cortège de tête, à faire une expo dans le bar de l'échangeur. Voilà, parce que c'est quand même pas sans rapport. Et on peut aussi annoncer que le 23 janvier, on fera un long texte Gilets jaunes avec des musiciens, dont Antonin Tri, au Fender, un squat à Ivry. Voilà.
Et c'est quoi Nuit Chelou ?
Nuit Chelou, c'est la petite structure que...
Il faut peut-être annoncer ce que c'est Chelou, parce que les gens peut-être ne connaissent pas Chelou.
Que j'ai monté pour s'occuper de tout ce que je fais, voilà, dans spectacle vivant.
Ok, très bien. Qu'est-ce que tu dis, Chelou ?
Ouais, Chelou, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le mot Chelou. Alors, Chelou, c'est du vérin, c'est louche.
Quand même.
Il faut penser à des personnes qui sont pas forcément d'origine française et qui parlent pas français.
Bravo. Là, t'es pas sur Radio Classique là.
Non mais bon, moi je suis d'accord, ouais. Bon Christophe, bah, tu
moi
as...
j'avais quand même
une petite question.
Oui, mais c'est gilet jaune, tu te doutes bien.
Et oui, je sais.
Moi j'avais des réticences au début par rapport à ce mouvement. Parce que voilà, et puis moi je connais aussi des gens pour qui c'est la révolte du petit contribuable, tu vois. Les histoires de bagnoles, on paye trop de taxes et tout ça. Des gens même aisés qui gueulent parce qu'ils payent trop d'impôts et ce genre de trucs-là. Au début j'étais assez réticent, puis après ça prend une autre forme, enfin il y a d'autres trucs. Et puis comme tu le disais toi-même, t'as des gens, t'as des fachos, quoi. Faut pas le cacher, quoi, hein, dans ce truc-là. Moi j'en ai fait peu, parce que je suis curieux. Je suis allé à une et je me retrouve derrière des mecs en train de chanter la Marseillaise avec le drapeau français. Donc tu vois que ça m'en... En même temps, bon, je trouve ça un petit peu... C'est très étrange, quoi.
C'est chelou.
Très étrange, c'est chelou, oui. Là, t'as raison. Qu'est-ce que t'en penses de ça ?
En fait, au début, moi, je n'ai même pas prêté attention à ce qui se passait parce que je pense que ça venait par des canaux qu'on n'écoute pas, type BFM, etc. Et il s'est passé, il y a eu le premier samedi, j'ai tendu une oreille quand même parce que j'ai des copains qui avaient été voir, par curiosité, qui m'ont dit « Attention, il se passe peut-être quelque chose. » Ensuite, j'ai un ami, Eric Benel, de Sud, de Solidaire, qui m'a dit « Écoute, nous, on a fait remonter un petit peu tout ce qui se passe en province. En fait, chaque point de blocage est tenu par des gens différents et donc tout dépend de qui tient le point de blocage. Ouais. Je me suis dit bon bah en fait la meilleure chose qu'on a à faire c'est d'y aller et d'amener ce qu'on est et ce qu'on a à faire à avancer politiquement. Donc du coup plutôt que de regarder ça en spectateur, de se dire bah non mais faut rentrer dans la mêlée et arriver avec ce qu'on a envie de faire entendre. Ensuite, moi, rapidement, mon point de vue, ça a été de me dire, de toute façon, il n'y aura jamais une insurrection qui se fera de façon pure, c'est pas possible. Et que, d'expérience, notamment en 2016, on sait qu'en fait, c'est les moments où il se passe quelque chose et où en fait, les gens, ils apprennent très vite. Donc du coup, il faut alimenter ce type de moments-là, parce que c'est des moments où il y a des bascules, mais il y a aussi des bascules intimes. Pour revenir, c'est-à-dire que chaque personne commence. Et là, qu'est-ce qui se passe, notamment vis-à-vis de la police ? Je pense qu'en 2016, les gens là qui se prennent les flashballs et qui commencent à comprendre ce que c'est que la police, en 2016, ils devaient prendre le cortège de tête pour des.
Ouais, tout à fait.
Bah, voilà. Donc ça, c'est en train de changer. Donc du coup, moi, je me dis, il faut alimenter ces moments-là parce que plus ils durent longtemps et plus les gens se rendent compte et peuvent aussi avoir des points de vue plus acérés, quoi, finalement. Et par rapport à la Marseillaise, au drapeau français, parce que effectivement, moi j'ai fait quelques journées me retrouver à faire des barricades avec des mecs qui ont des drapeaux français qui chantent la Marseillaise. Bah, ça m'a moins dérangé que ce que je pensais en fait. Bah parce que en fait, c'est quand même des gens qui sont en train de mener une lutte d'autodéfense populaire. Avec peut-être une culture qui n'est pas exactement la mienne, ouais. Mais qui sourit, qui te parle, qui sont curieux, qui viennent de Haute-Savoie, qui viennent de l'Ariège. Bon, et puis, mais ça c'est peut-être mon espèce de truc, une espèce de lyrisme comme ça que j'ai naturellement, mais je n'ai pas pu m'empêcher de relier ça à 48, à 32, à 30, des drapeaux français, des gens qui chantent la Marseillaise sur des barricades. Enfin, il y a un truc qui prend quand même, en fait. Hein. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, je suis plutôt de l'autonomie. Donc voilà, c'est pas ma chanson, c'est pas mon langage. Hein. Et c'est pas mon drapeau. Mais... Et puis, de toute façon, sans faire rencontre avec ces gens-là, on fera jamais tomber quoi que ce soit, quoi, de toute façon. Donc,
moi, j'aimerais rajouter un truc aussi. C'est qu'il ne faut pas oublier que là, la loi travail, moi, j'avais 16-17 ans. Et que là, maintenant, on est en 2019 maintenant. Et que là, il y a aussi les jeunes qui étaient plus jeunes que moi, que maintenant, ils sont rentrés dans le délire. Et il y a aussi la jeunesse aussi, je pense que je fais aussi un hommage à Mante la Jolie. Tu vois, c'est des jeunes, c'est des gens qui, moi, c'est comme si moi je me revoyais 3 ans plus tôt. Et ouais, là, il y a du soutien à apporter malgré bon gré, hein, que ce soit un mouvement de n'importe quelle classe sociale, on va dire. Mais que voilà, il y a aussi les jeunes à soutenir. Il y a aussi une révolte, parce que je pense que plus on avance dans le temps, plus les jeunes aussi prennent une maturité assez incroyable. Plus jeunes ils sont, plus ils deviennent matures. Donc il faut les soutenir quand même.
Ouais. Alors moi, il y a l'aspect dont tu parles là. Ce qui m'intéresse, c'est les gens dont tu parlais, qui n'ont jamais manifesté de leur vie, qui ne sont jamais pris une bombe lacrymo dans la gueule. Et ben voilà, là, ils savent ce que c'est que la violence policière. Ouais. Ça, c'est intéressant dans un sens. Et puis, il y a autre chose que je me dis par rapport au cortège de tête. Qu'est-ce qu'on a été con pendant des années, nous, de suivre la CGT ou de la précédée ?
J'ai jamais suivi. Hein. Ah, ça, c'est...
bravo.
Mais... J'ai jamais suivi la CGT.
Mais nous les vieux cons de militants, là, ouais. Pourquoi on n'a pas fait ça plutôt d'aller aux Champs-Elysées, quoi ? Je sais pas, tu vois.
Putain, ça, ben,
c'est une question pour les vieux. Moi, je me sens pas concerné.
Bravo.
On n'était pas assez. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui coagule depuis quelque temps, qui coagulait pas encore. Hein. Mm-hmm. Non.
Oui. Ah bah oui. C'est clair. Bon.
Vous avez pas la télé, et les ordi, c'est normal.
Il y a certainement quelque chose de ça.
Ouais,
oui.
Je pense que, ouais.
Oui,
ouais,
les ordi. Ouais.
Mais après. Après, je pense aussi que vous avez raté votre vocation parce que, je sais pas, mais quand on parle des Red Warriors, quand on parle des Redskins, des anciens punks et tout, pourtant c'est votre génération. Hein, et ça allait de l'avant aussi, moi, quand je regardais des trucs, ça allait de l'avant aussi, c'était chaud, oui, hein, c'était même parfois plus chaud que maintenant.
Oui.
Bah, ça a au moins entretenu les braises. Hein.
Ouais, du coup, c'est vous avez raté votre vocation.
Bah voilà. J'ai quelques annonces pour la librairie Publico ce soir, vendredi 11 janvier. Rencontre débat avec Caroline Granier à Armes Égales. Alors c'est autour de Caroline Granier a écrit un livre à Armes Égales, les femmes armées dans les romans policiers, dans les romans policiers contemporains. Donc c'est aux éditions Ressouvenance. Et bon bah voilà, elle nous parle des enquêtrices dans les polars, les figures de fliquesses, de privés, de journalistes, d'investigation. Voilà, c'est les femmes dans le polar. Ça c'est ce soir à quelle heure? Je ne sais pas. Il n'y a pas l'heure. En général c'est 19h, hein, à Publico. Demain, il y a de la chanson, c'est à 17h, les samedis de la chanson, concert Valouda Duo. Et enfin, en ce qui concerne cette semaine à Publico, jeudi 17 janvier, rencontre débat avec des grévistes de l'hôtel Parc Hayat, Vendôme. Ah. Suite à la victoire des grévistes du groupe STN, sous-traitant de l'hôtel de luxe du Parc Hayat, Vendôme, après 87 jours de grève, le groupe Salvador Segui, de la Fédération anarchiste, organise une rencontre débat avec plusieurs de ses camarades grévistes le jeudi 17 janvier prochain à 19h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, évidemment. Cette rencontre sera l'occasion de revenir sur la lutte victorieuse de ces travailleuses de l'ombre, sur leur parcours, leur mode d'organisation, les conditions de travail dans le milieu de l'hôtellerie, de luxe, etc. Le débat sera suivi d'un petit pot de l'amitié. Venez nombreux. Voilà. Je n'ai pas d'annonce de concert particulier, mais si, bien sûr. Si, bien sûr. Il y a Maria Chavez, bah oui. Donc c'est aux Instants Chavirés, 7 rue Richard Lenoir, c'est jeudi 17. Oui, c'est ça, jeudi 17 janvier à 20h30. Maria Chavez, alors c'est une joueuse de tourne-disque.
Ouais. Première partie, Fred Marty et Pascal Battus. Donc d'abord c'est un duo, ensuite voilà. C'est le solo de Maria Chavez et ensuite le trio Fred Marty, Pascal Battus, Maria Chavez.
Ah oui, venez nombreux aux Instants Chavirés. Donc c'est 7 rue Richard Lenoir à Montreuil. Et je signale que nous recevrons, nous, avant que le lendemain, Maria Chavez dans nos studios, mais on l'enregistrera en différé. Ce sera diffusé, je pense, en février. Je ne sais plus très bien la date. Mais si vous voulez comprendre en février de quoi on va parler, bah allez voir le concert de Maria Chavez. C'est assez étonnant. Elle joue avec des disques cassés.
Puis en plus, c'est la première fois qu'elle joue en région parisienne.
Elle est péruvienne. Hein, donc, voilà. Elle habite aux États-Unis, mais elle vient assez rarement. On vous encourage à aller la voir. Voilà pour les annonces. Hein.
Ouais.
Bon. Ben, il nous reste à remercier nos invités. Merci à toi, Patricia.
Ben, merci. Et merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Abdel.
Merci à vous.
Et au revoir.
Ben, merci à vous. Et dire juste que c'est une sacrée victoire, là, la victoire des filles du Parc Hayat. Hein.
Ouais, c'est clair. On va se quitter avec quelques extraits encore. Je pense que c'est Cortège de tête. Je signale que la semaine prochaine, donc en direct, nous recevrons Lin Li Liao, qui est une compositrice de musique contemporaine. Ça va nous changer d'univers, là. Ouais, je suis très content. Ouais. Allez, salut à tous. Merci infiniment.
Clair. Au revoir.
Salut. Merci à vous.
Le gouvernement a pris ses responsabilités. Car concerter, ce n'est pas se défausser. Discuter, ce n'est pas tout accepter. Et gouverner, ce n'est pas laisser choisir, c'est décider. C'est pourquoi cette loi ne fait pas mystère des orientations qu'elle porte. Plus de vitalité, plus de justice et de transparence, des droits aux Français et en particulier aux plus jeunes. Ce sont par ces leviers qui se renforcent mutuellement que la cohérence de ce texte se construit pour l'activité et l'égalité des chances économiques.
Je parlais d'expression artistique sur la manif. Donc tout à l'heure, elle avait passé une espèce d'oiseau bélier en carton et en palette, sans doute, décoré, peint, très joli. Donc on s'est demandé quel pouvait être son usage, parce qu'il avait un bonnet pointu, un beau bec pointu. Et en fait, là, il est en train de brûler. Là, il finit de se consumer à l'heure qu'il est, devant les barrières anti-émeutes. Donc c'était joli tout à l'heure, effectivement. Là, on peut dire que c'était une vraie performance, parce qu'elle était éphémère.
Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song that's playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run. I say hide, we'll hide, because my love for you would break my heart in two if you should fall into my arms and tremble like flowers.